temps en temps durant l'automne, avant de vraiment replonger dans la partie 2 du livre de l'Exode. On a couvert la première moitié de ce livre-là et on va avoir un focus plus grand sur l'Évangile de Marc, un livre absolument bénissant. Et nous aurons aussi des invités spéciaux, des sujets spéciaux au cours de l'automne. Alors, aujourd'hui, oui Seigneur, guide-nous alors que nous écoutons notre première lecture dans l'Évangile de Marc. Comme Mélodie a prié, ouvre nos cœurs. Amen. Alors, aujourd'hui c'est plus introduction à ce livre, mais on va quand même lire les premières lignes de ce merveilleux Évangile. Alors, j'ai un peu d'inquiétude sur mon PowerPoint. Ah ouais, non, il paraît pas comme il paraissait sur mon ordi. Là, j'imagine, vous voyez pas grand-chose. Je vous invite à bien écouter. Alors, l'Évangile de Marc commence comme ceci. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut. Jean-Baptiste. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Alors, comme on a dit, cette semaine, on a reçu la nouvelle triste d'une famille durement éprouvée. La famille Brunet, notre sœur Louise qui a été reprise, qui est, la Bible dirait, elle s'est endormie dans le Seigneur, elle est décédée. Et encore une fois, Francis, on t'offre nos sympathies. Et à l'Église aussi, parce que c'est une sœur bien-aimée. On peut se réjouir pour elle, ses problèmes, et elle en avait beaucoup, ses problèmes sont terminés. Maintenant, elle est dans la présence merveilleuse du Seigneur. Mais quand même, c'est une nouvelle dure pour nous. Et c'est jamais facile de recevoir une mauvaise nouvelle. C'est la même chose aussi dans le domaine de l'actualité et de la politique, les nouvelles. On a l'impression qu'on en a de plus en plus de mauvaises. En fait, il y a toujours eu beaucoup de mauvaises nouvelles dans l'actualité. Mais il me semble, depuis quelques années, de plus en plus, j'entends les gens dire, j'ai décidé d'arrêter d'écouter les nouvelles, ça m'angoisse trop. Peut-être que vous avez entendu ça, peut-être que vous-même, vous avez décidé ça. Personnellement, en tant que pasteur, j'ai décidé de continuer à m'informer des nouvelles, mais je partage ce sentiment d'angoisse et des fois j'ai le goût d'arrêter, des fois je prends des pauses de l'écoute de l'actualité. C'est pas facile. J'ai, comme vous, nous avons tous soif d'entendre de bonnes nouvelles, des choses qu'on entend qui nous donnent de l'optimisme pour l'avenir et pour nos vies. dans un monde de mauvaises nouvelles, je ne veux pas manquer ma chance de profiter d'une vraie bonne nouvelle lorsqu'elle arrive. Et j'espère que tu es comme moi. On parle d'un monde de mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas juste ça. On vit dans un monde de fausses bonnes nouvelles. Même les bonnes nouvelles nous déçoivent. Or, dans l'actualité, par exemple, on pense aux promesses électorales. Oh, quelle bonne nouvelle! Tel futur leader va faire ceci. Et il brise sa promesse sur laquelle il a été élu. Des fausses bonnes nouvelles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on pense aux Allemands qui arrivaient, qui faisaient la conquête d'encore un autre pays en Europe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était la stratégie classique. Ils annonçaient au peuple conquis la bonne nouvelle. Maintenant, vous avez un nouveau gouvernement. Sous notre régime nazi, votre pays va maintenant entrer dans cette nouvelle période de gloire et de prospérité avec nous, les Allemands. C'était pas vrai. La violence et l'oppression s'en venaient, mais on annonçait une fausse bonne nouvelle. Je raconte ça parce que ça existe depuis longtemps, et dans le temps de la Bible, dans le temps où les évangiles ont été écrits, les conquérants faisaient la même chose. Les empereurs romains, par exemple, eux, c'était leur approche défensive. On veut protéger notre empire, on va conquérir un autre pays pour nous défendre. Il y a des empires aujourd'hui qui utilisent ce même discours. Et lorsqu'ils ont conquis ce pays, eh bien, ils avaient l'habitude de publier un évangile. Les conquérants, au son de la trompette, faisaient faire une déclaration publique dans la ville conquise, par exemple, et ils disaient, on vous annonce l'évangile de tel conquérant. La bonne nouvelle, évangile veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle que vous avez un nouveau souverain, l'empereur romain, et vous entrez maintenant dans le merveilleux monde de notre empire. Vous allez être heureux avec nous, mais surtout faites ce qu'on vous demande, obéissez-nous. Alors, c'était un évangile rempli de fausses promesses. Donc, dans un monde de fausses bonnes nouvelles et de leaders qui sont faux, je ne veux pas manquer ma chance. Je ne veux pas manquer ma chance de connaître un leader qui est vraiment bon et qui frappe à ma porte parce qu'il veut que j'entre dans son règne. J'espère que tu es comme moi. Si oui, ben l'évangile de Marc est vraiment pour toi. Alors, vers l'an 65 de notre ère, on peut dire aussi dans l'an 65 après Jésus-Christ, c'est un peu drôle parce que on dit Jésus est né en l'an zéro de l'ère de Jésus-Christ, mais là, les historiens on arrive à la conclusion qu'il est né en l'an moins 3. Alors, c'est parce que les sciences historiques font certains progrès. Donc, moi, je vais dire l'an 65 de notre ère, mais on peut dire aussi après Jésus-Christ, en tenant compte du décalage de 3 ans. Bien, les premiers chrétiens, vers 65, propose au monde un livre qui raconte une vraie bonne nouvelle. Depuis une trentaine d'années, je parle pour les premiers chrétiens, Jésus est en train de bouleverser le monde, petit à petit. Lui, il est mort vers l'an 30 Et incroyablement, comme il l'avait prédit, son tombeau a été découvert vide. Et lui se manifeste comme une puissance de résurrection un peu partout dans le monde, en train d'amener des gens à lui à travers la prédication de ses disciples. C'est absolument extraordinaire. Et des églises, des petites églises sont fondées un peu partout dans le monde. Bien, le monde de cette époque, c'était beaucoup l'Empire romain, tout autour de la Méditerranée et bientôt jusqu'en Espagne, au nord et au sud, jusqu'en Algérie et là, là où l'Empire romain existait et un peu au-delà aussi. Et comment est-ce que la foi se répandait dans ce monde-là? Beaucoup par le bouche à oreille, les chrétiens qui témoignaient de leur foi à leur famille, à leurs amis. Mais aussi par la prédication des missionnaires et des apôtres qui allaient avec un mandat spécial pour annoncer la bonne nouvelle et inviter les gens à se repentir et à croire en Jésus. Toutes ces personnes étaient remplies d'un espoir nouveau qui touchait les gens dans un monde de désespoir. Je pense que l'espérance de vie dans l'Empire romain, c'était quelque chose comme 30 ans. C'était vraiment pas beaucoup. Les femmes mouraient très jeunes à cette époque-là. Souvent, c'était lors d'un accouchement. La vie était très dure pour les femmes et pour tout le monde. Et l'Évangile amenait une espérance extraordinaire. Nous sommes porteurs du même message encore aujourd'hui et de cette même espérance. 2000 ans plus tard, c'est vrai que les temps ont changé, mais nous avons le même ennemi qui nous angoisse, la mort. On vient de mentionner encore une fois que le Seigneur est venu prendre notre sœur Louise et je pense à Francis qui souffre beaucoup. Mais Francis, tu sais, moi j'ai été avec toi pas mal dans les derniers jours et tu as beaucoup de tristesse, tu as des moments de pleurs, mais tu as aussi des moments d'espoir où tu vas parler du fait que ta mère est avec le Seigneur et que le Seigneur te donne de la force. Et c'est vraiment ça qui est l'espérance chrétienne. Paul, dans une de ses épîtres, lui, il écrivait aux premiers chrétiens de la ville de Thessalonique vers 45, donc vraiment au début de l'Évangile, 15 ans après la mort et la résurrection de Jésus, et il leur dit, « Il faut que votre espérance par rapport à ceux qui meurent parmi vous dans votre Église, il faut que ça vous porte. » Et il explique ça comme ceci, peut-être ça pourra t'encourager, Francis, ben, nous tous en fait. Paul, il écrit ceci aux chrétiens, il dit, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » C'est correct d'être triste, mais pas la même tristesse de ceux qui n'ont aucune espérance. Nous, on est là pour les encourager, eux, qu'il y a une bonne nouvelle. En effet, dit Paul, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Amen. Ah, c'est merveilleux. Quelle espérance. Il va les ramener. Il va ramener Louise. Il va ramener ton père. Il va ramener tous ceux qui nous ont précédés. Et ils vont dans plus de détails. Voici ce que nous déclarons d'après ce que Jésus nous a enseigné lui-même. Donc, c'est dit d'après les paroles du Seigneur lui-même. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et il dit un peu plus tard, nous serons avec eux et avec le Seigneur à ce moment-là. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que les chrétiens qui sont encore vivants, À un moment donné, Jésus va revenir et il y aura des chrétiens encore vivants qui vont être là et Jésus va revenir avec ceux qui sont déjà morts et ressuscités auprès de lui. Puis nous, qui sommes sur la terre, on va comme les rencontrer dans les airs et puis Jésus va venir et fonder un nouveau royaume sur la terre. Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas merveilleux? On va les revoir et ils seront comme, il dit, ils vont nous devancer parce qu'ils vont être avec Jésus avant nous. Donc, ne soyons pas désespérés pour eux. Alors, je dis ça pour nous aujourd'hui concernant Louise et beaucoup d'entre vous avaient des défunts et qui vous apportent de la tristesse. Mais soyez dans cette espérance et c'est, parce que c'est vraiment cette espérance que les premiers chrétiens véhiculaient. On dit aussi que dans les premiers siècles, les premiers chrétiens, non seulement ils avaient de l'espérance pour ceux qui étaient déjà morts, mais beaucoup d'entre eux n'avaient pas peur pour leur propre mort. Et ils allaient, quand il y avait des pestes, c'est souvent eux qui allaient enterrer les morts des non-chrétiens. Parce qu'on ne voulait pas toucher aux morts qui avaient été infectés. Et paraît-il que c'était quelque chose que des chrétiens faisaient. J'imagine qu'ils priaient vraiment que Dieu les protège. Mais ça a beaucoup touché les non-chrétiens autour d'eux. Alors, tout ça pour dire que l'Évangile se répand dans ces 30 premières années, et les gens comprenaient. Je dois croire en ce Jésus-Christ qui est annoncé. Je dois aussi vivre en lui. Hein? On voit dans les lettres de Paul qui ont été écrites au début, « Vivez en Christ. Vous qui êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. » Et ainsi de... Et les gens le faisaient, mais au fait, c'est qui ce Christ? On aimerait en savoir plus. Vous, les prédicateurs, bien, il y en a encore qui l'ont connu personnellement, mais c'était qui? Et c'est là que Marc a eu la merveilleuse idée d'écrire un évangile. On croit que c'est l'évangile de Marc qui est le premier, écrit à peu près vers l'an 65. Heureusement qu'il a pris cette initiative, parce que tout chrétien, à partir de ce moment-là, peut compléter sa compréhension de qui est Jésus-Christ, de comment il vivait, de qu'est-ce qu'il demandait, et de la sorte de puissance qu'il incarnait. Tantôt, on chantait « Change mon cœur, qu'il devienne comme toi » ou « Que je devienne comme toi ». Les évangiles, ces textes, nous aident à savoir comment vraiment Jésus était pour pouvoir devenir comme lui. Donc, dans un monde sans espoir, je ne veux pas manquer ma chance de connaître la vie de celui qui a incarné en chair et en os l'espoir pour les hommes, cet espoir qui vient de Dieu. Donc, c'est pour ça que l'Évangile est là et c'est pour ça qu'on va, y aller. On va le regarder ensemble cet automne et au-delà. J'aimerais aussi ajouter le fait que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle que vraiment tu as besoin, dont tu as besoin. C'est une nouvelle, une vraie bonne nouvelle, pas une fausse, et tu en as vraiment besoin. Le but de Marc, dans son évangile, en passant, Marc, on pense que c'est Marc qui l'a écrit parce que des chrétiens au 2e, 3e siècle ont dit c'est dans la tradition orale qu'on a appris que Marc, le neveu de Barnabas, celui qui était associé avec Paul à un moment donné, dans les missions, et que plus tard, il est devenu un genre d'assistant de l'apôtre Pierre, quand Pierre faisait de l'enseignement ambulant. que c'est ce Marc-là qui a écrit l'Évangile à Rome. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible elle-même, c'est dans les traditions. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'habitude de dire Évangile de Marc. Mais comme il était très humble, il n'a même pas signé son nom dans le texte lui-même. Moi, je crois que c'est Marc qui l'a écrit et on va continuer avec ce titre. Marc veut nous montrer que Jésus est la réponse à plusieurs questions et besoins que nous avons en tant qu'humains. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder cette première phrase de l'Évangile qui est comme un titre. En grec, c'est littéralement « commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Bon, le traducteur a mis « voici le commencement ». Mais, donc, chacun des mots dans ce titre est là pour une raison. Marc évoque dans chaque mot une dimension clé de la bonne nouvelle qui est pour toi en Jésus et dans la vie de Jésus. Alors, regardons ces mots. Voyez-vous qu'il y a un mot qui est en jaune maintenant? Oui, OK. Oh, heureusement que cette partie-là du PowerPoint fonctionne. Évangile. Le mot évangile, euangelion en grec, bonne nouvelle. Donc, on en a déjà parlé. Dans un monde de mauvaises nouvelles et de fausses bonnes nouvelles, on a parlé des empereurs, des conquérants. Marc dit, là, écoutez bien, j'ai une vraie bonne nouvelle, une vraie euangelion pour toi. Puis, il y a ce mot-là après, Jésus, Jésus. Jésus, donc tout de suite, Marc dit, l'Évangile, c'est à propos de Jésus. En passant, ce n'est pas l'Évangile que Jésus a enseigné. Oui, ça l'est dans un sens, mais c'est surtout l'Évangile qui est Jésus. C'est Jésus lui-même, la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que le livre parle Jésus de bout en bout. Lorsqu'on écrit on écoute ou qu'on lit cette histoire écrite par Marc et qu'on était dans une église, parce que c'était là que ça commençait, en fait, beaucoup de gens ne savaient pas lire. Il y avait des lecteurs, ils lisaient. Puis moi, j'imagine qu'au début, quand le livre commençait à circuler, on le lisait d'une shot. Et quand vous l'écoutez en audio d'une shot, ça prend un peu plus que 2 heures. Alors, les gens étaient patients, mais surtout, je suis sûr qu'ils étaient vraiment intéressés, passionnés par cette histoire. Et donc, les gens connaissaient Jésus, mais là, dans l'Évangile, là, ils commencent à voir, ah, c'était vraiment un vrai homme qui a vraiment vécu dans un vrai village qui s'appelle Nazareth, dans une vraie nation qu'on connaît, la nation juive, avec une vraie famille, hein? Marie de Nazareth, c'était sa mère. Il avait des frères et sœurs. Il avait un vrai métier de maçon-charpentier. Et il a eu un vrai appel de Dieu et une puissance spéciale de Dieu à l'intérieur de lui qu'on n'avait jamais vu avant. Et puis aussi, et ça, ce n'est pas négligeable, dans l'Évangile, on voit que Jésus invite les gens à croire et à le suivre. Et on voit les différentes réactions. On voit des réactions souvent négatives, des noms. Non, merci. Mais on voit aussi des oui. Et puis toi aussi, si cet évangile, il est là pour toi, c'est aussi pour te mettre devant ce choix. Est-ce que tu dis non? Ou est-ce que tu dis oui? Oui, Jésus, je te suis. Je crois en toi. Je mets tous mes œufs dans ton panier. Jésus, je veux vraiment que mon identité s'associe à la tienne. Donc, un aspect de cet évangile, c'est que ce Jésus de Nazareth c'est un humain comme moi et il vient m'inviter à le suivre. Mais il y a un autre mot qui vient juste après. Jésus, le Christ. Et on a l'habitude d'utiliser le mot Christ comme le nom de famille de Jésus. Jésus-Christ, un peu comme Marc de Bannet ou Tim Wiesner. C'est pas exactement ça. C'est un titre qui fait partie de la bonne nouvelle. Jésus, c'est le Christ. Le mot grec Christos traduit le mot hébreu. Il est le Messie, le Machia, le Messie, celui que les Juifs attendaient. Le libérateur choisi d'avance par Dieu pour libérer le peuple juif qui souffre et amener un nouveau règne de Dieu permanent sur la terre. Alors, l'Ancien Testament contient beaucoup de prophéties sur ce Messie qui vient et beaucoup de Juifs les comprenaient peut-être d'une mauvaise manière. Beaucoup de Juifs attendaient une autre sorte de Messie et n'ont pas cru en Jésus. Et beaucoup de Juifs aujourd'hui, qui habitent à Montréal et ailleurs, attendent encore un Messie et pensent que ce n'est pas Jésus. Et ça peut être encore aujourd'hui un sujet de conversation avec eux, bien que ce n'est pas facile. Le Jésus que vous attendez, ce Jésus qui vient à la fin des temps, c'est Jésus. Ils ne vont pas être d'accord avec vous, mais c'est quand même un premier pas dans la conversation. Marc est là pour dire, le Jésus, le Christ, le Messie que les Juifs attendent, c'est bien Jésus. C'est un autre aspect de la bonne nouvelle. Parce qu'il peut aussi, il veut être ton Messie, celui qui te sauve de tes problèmes et celui qui te fait entrer dans le règne futur et présent de Dieu, un règne qui va venir sur la terre. Donc Jésus est une bonne nouvelle pour toi aussi, parce qu'il est le Messie promis. Il veut être ton Messie. Marc ajoute une autre expression biblique, « fils de Dieu ». Donc là, il met plusieurs choses ensemble. Jésus, ce n'est pas seulement le Messie, il est aussi le Fils de Dieu. Donc, dès le départ, Marc affirme que Jésus, oui, on a vu, c'est un homme, un vrai homme, Jésus de Nazareth, mais il est plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est un ange qui est apparu sur la terre? Non. On va le voir. Est-ce que c'est un prophète avec des pouvoirs spéciaux, avec des superpowers? Un prophète, un super prophète? Non, c'est pas ça que Marc va développer progressivement dans son histoire. Fils de Dieu, il l'est d'une manière unique. Il y a quelque chose avec cet homme qui montre que Dieu est avec lui et en lui d'une manière jamais vue auparavant dans un être humain et qui sera jamais vue de la même manière après. Il est fils de Dieu, mais pas comme tu penses. C'est ça qui est intéressant avec Marc, c'est que les gens ont des fausses compréhensions. Jésus, il se révèle progressivement et des fois, il va même dire, « Oui, tu as raison de dire que je suis le Messie, mais parle pas à personne, puisque les gens ne vont pas comprendre. » Progressivement, on apprend qu'il est aussi le Fils de Dieu, mais pas comme on pense. Laisse le temps à Marc de t'informer de ce que ça veut vraiment dire. Déjà Jean-Baptiste, dans les versets qu'on a lus tantôt, Jean-Baptiste ne comprenait pas vraiment, mais dès le départ, il dit des paroles que c'est. Il ne dit pas juste celui qui vient après moi a un message plus clair que le mien. Non, il dit celui qui vient après moi est plus puissant que moi.
Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Il ne dirait pas ça de quelqu'un qui est simplement un homme et un prophète. Mais même Jean-Baptiste a eu de la misère à comprendre. Et nous, on a le privilège d'avoir l'histoire au complet. J'aimerais juste maintenant vous parler d'un dernier mot, qui est le premier mot, commencement. Commencement, c'est le premier mot, et il pourrait passer inaperçu, mais c'est quand même important parce que Marc a choisi le mot commencement comme premier mot parce que c'est le premier mot de la Bible. Au commencement, enfin le « au », dans « au commencement », il est inclus dans le mot « commencement » en hébreu. Donc, Marc est en train de dire, en quelque part, l'histoire que je vais vous raconter à propos de Jésus, c'est un nouveau commencement du monde. Jésus est venu pour bâtir un monde nouveau. Il est venu t'inviter à le suivre dans une nouvelle création. Il veut que tu lui dises « oui ». Pour que tu entres, toi, dans une nouvelle création et que tu deviennes une nouvelle créature. Il veut te donner une nouvelle vie où tu vas vivre d'une nouvelle manière. Fini la séparation avec Dieu que tu imagines est indifférent ou en colère contre toi. Entre dans le nouveau, la nouvelle création où tu es une fille, un fils de Dieu qui marche avec lui comme Jésus a marché. L'Évangile est là pour t'aider à vivre cela. Est-ce que ça te tente? Ça te tente? Oui? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait même lever la main et dire, oui, ça me tente? Oh. Amen. Amen. Oui. Oui. Moi, ça me tente. On va conclure. On vit dans un monde avec beaucoup de mauvaises nouvelles. Et à partir de début octobre, probablement, parce qu'on a des sujets spéciaux qui s'en viennent. On va vraiment plonger dans l'Évangile de Marc. La plus grande bonne nouvelle qui nous a jamais été donnée. Viens te joindre à nous. Viens écouter, réfléchir et en arriver à dire un oui total. Un oui total. Comme ceux qui ont reçu le baptême. Je vois qu'il y a Jennifer là-bas qui s'est fait baptiser. Ça fait-tu juste une semaine? Juste une semaine? Oui. Qui d'autre qui était là? Il y avait Jennifer. Sandra est en bas déjà au service du Seigneur. Je ne sais pas si Thierry est là. Mais, et il y en a eu d'autres cet été. Gloire à Dieu pour ceux qui disent oui. Et on avance dans le oui, toujours avec des nouvelles occasions. Oui, viens découvrir avec nous l'Évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Prions. Seigneur, merci parce que tu nous dis que c'est le temps de te dire oui. Seigneur, je veux te remercier parce que nous, on est ici pour te dire oui et pour inviter nos amis à dire oui. Puis moi, je veux prier pour la personne ici qui sait qu'il doit prendre une décision pour te dire oui. Fini les délais, fini les hésitations. Fini l'incrédulité. Oh, je vais faire le pas de foi cet automne ou même aujourd'hui. Jésus, je t'invite dans ma vie. Jésus, je veux que tu me changes pour devenir comme toi, comme on a chanté. Et je vais le dire à quelqu'un. J'ai décidé de suivre Jésus. Oh Père, aide-nous tous à grandir dans ce oui. Parce qu'on voit dans l'Évangile que ceux qui t'ont dit oui, je pense à Pierre. Pierre qui t'avait dit oui, puis qui a reculé à un certain moment puis qui a été obligé de reconnaître sa faiblesse et à nouveau te dire oui, recevoir ton pardon et continuer de plus belle avec toi. Ô Père, aide cette personne, aide-nous tous dans notre écoute de ton évangile. Nous prions au nom de Christ. Amen.